On dit Tic et Tac, vous voyez tout de suite les deux petits rongeurs des dessins animés de Mickey ou Donald, où vous entendez le mouvement régulier de l'horloge, tic, tac, tic, tac. Mais si je vous dis Tic et Toc, ça s'aggrave. Des tics devenant des tocs, genre du coup je dis ça, je dis rien, voilà, voilà.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Pascal Paradou.
Convenons-en, les mots nous dépassent, nous échappent et nous agacent parfois, des mots vides, des mots béquilles, des mots réflexes, des tics de langage devenus des tocs ou des mots à la mode. Des tics où comment s'en débarrasser aujourd'hui avec Quentin Périnel. Bonjour.
Ah bonjour Pascal.
Vous êtes journaliste au Figaro et l'auteur d'un petit livre où vous avez répertorié les 100 expressions, les 100 expression à éviter au bureau et ailleurs. C'est pour mieux s'en débarrasser ?
C'est pour mieux s'en débarrasser, c'est surtout pour rire de notre façon de parler. Moi, j'ai eu l'idée de ce bouquin en écoutant mes collègues, en écoutant mes amis aussi, parce que bien généralement, enfin même dans le cercle privé, on continue à parler comme au boulot. Et donc, on se rend compte que mais qu'est-ce qui est arrivé à nos amis qui parlaient si bien avant et qui, depuis qu'ils ont ce poste de consultant, ont complètement changé leur jargon et ça déborde largement sur la vie privée.
Mais vous dites que c'est pour en rire, et en même temps, dans le livre, vous dites que ça vous donne souvent envie de donner des claques.
Bah oui, parce que les tics de langage, c'est par essence assez agaçant, parce que les tics de langage, comme le nom l'indique, c'est des choses très redondantes qui peuvent surgir 4-5 fois toutes les minutes dans des phrases. Vous avez cité à juste titre du coup dès le début de votre introduction. Il y a genre, il y a tout un tas de petits mots comme ça qui n'ont en fait pour seul objectif que d'abréger la conversation. Plus on va vite, mieux c'est.
Vous, Quentin Périnel, les yeux dans les yeux, est-ce que vous arrivez à les éviter ?
Pas du tout. Je suis d'ailleurs le premier coupable. Il y a quasiment 100% des mots qui sont dans mon bouquin que je dis moi-même. C'est pour ça que je dis qu'il faut en rire, parce que j'échappe pas aux tendances. Moi aussi, j'utilise certains tics de langage par mode, pour paraître plus intelligent, pour être dans ce mode très, c'est terriblement contagieux, les tics.
Donc, on en est tous là.
Oui.
Comme dirait
absolument, on en est tous là.
Avec vous, Julie Neveu, bonjour.
Bonjour Pascal.
Maître de conférences en linguistique et en littérature anglaise à la Sorbonne, mais aussi autrice de comédie. Il peut y avoir un ressort comique dans le tic de langage.
Tout à fait, surtout si on joue avec la perception qu'il produit, et en effet, on joue sur l'agacement qu'il peut provoquer chez les autres qui l'entendent.
Mais alors pourquoi les éviter, si cela peut être drôle ?
Moi, j'ai jamais dit qu'il fallait les éviter. Et d'ailleurs, je dirais qu'on est bien incapable de les éviter, et que même quand on s'en aperçoit, on a un mal incroyable à s'en débarrasser. Le tic, comme vous l'avez bien dit dans votre introduction aussi, c'est comme le toc, c'est inconscient, largement inconscient, et on se rend bien plus compte des tics que disent les autres que de nos propres tics.
D'où vient le mot tic ?
Alors le tic, ça vient de ticchio en italien, et c'est d'abord une sorte de spasme du cheval qui régurgitait, qui avait du mal donc à absorber sa nourriture. Et c'est assez drôle de penser à cette étymologie quand on pense en effet que lorsqu'on a un tic de langage, c'est qu'on n'est plus trop en train de dire quelque chose véritablement, mais de faire une prolifération assez physique, une sorte de gêne physique qui se transmet par un mot vide de sens.
Et on est passé donc de l'animal à l'homme pour parler du tic. Et depuis très longtemps, je crois que c'est le XVIIe siècle déjà, hein, l'usage est attesté à cette époque-là.
Tout à fait, déjà au XVIIe siècle. Et surtout, ce que vous dites qui est intéressant, c'est que quand on a des tics, on se révèle en tant que animal linguistique plus qu'en tant que homo sapiens, vous voyez, c'est-à-dire qu'on fait partie d'une société et on chope les tics comme des virus et on les répète, on les transmet, on fait partie de notre environnement.
Il y a le verbe tiquer aussi, qui ne veut pas dire tout à fait la même chose, parce qu'on peut tiquer face à un tic, par exemple.
Tout à fait, tiquer.
Tiquer, c'est-à-dire faire une espèce de grimace pour dire qu'on n'est pas très content.
Oui.
Voilà, voilà.
Partout, partout sur la douce France.
Voilà, voilà, Rachida commande un tic de langage, on fait une chanson. Voilà, voilà, c'est une expression que vous répertoriez, Quentin Périnel, dans votre livre, et vous dites que c'est la plus agaçante au monde.
Bah oui, parce que donc ce qu'on disait juste avant, cette très bonne interlude musicale, c'est que la plupart des tics, beaucoup de tics en tout cas, servent à abréger sans cesse la discussion. Et voilà, voilà, ça en fait partie. Si je dis, je dis voilà, à chaque fois que je, tous les trois mots, ça veut dire que je vais en finir au plus vite et que mon interlocuteur ne me passionne pas, ou alors que moi, je n'ai pas envie de lui parler.
Mais c'est à peu près le cas de beaucoup d'expressions, parce que du coup,
c'est pareil.
Du coup, c'est la même chose. Et vous dites que c'est le degré zéro du vocabulaire.
Ah oui.
Et de la communication.
Écoutez, Pascal, on nous a appris à l'école, Julie ne veut dire pas le contraire, à bien parler, on nous a fait lire des beaux livres, on nous a fait lire Flaubert, Balzac, etc. On nous a fait apprendre tout un tas de beaux mots. Donc, pourquoi ne pas les continuer à les utiliser, même si, là, je parle surtout du monde de l'entreprise, dans l'entreprise où maintenant, il faut sans cesse bâcler, quoi. On prend plus le temps de parler, de souffler et de simplement dialoguer comme des gens normaux avec les termes qu'on nous a appris de façon très...
Par conséquent, c'est aussi utilisable, en lieu et place du coup.
Moi, je suis un fervent supporter de par conséquent.
Comment expliquer, Julie Neveux, l'irruption comme ça des tics, parce que ce n'est pas une personne ou deux qui ont un tic de langage, ça peut s'expliquer, tout d'un coup quelqu'un va avoir une sorte de toc, mais j'ai le sentiment que ça prend l'ensemble de la société, il suffit de tendre l'oreille dans un métro, dans un train, dans la rue, on entend les mêmes expressions dans la bouche des mêmes personnes.
Bien, je crois que c'est les médias qui peuvent être incriminés, vous êtes très heureux de le savoir.
Mais à culpa, je bats ma culpa.
Non, pas du tout, mais enfin, il y a beaucoup plus d'exposition de la parole publique aujourd'hui, par les réseaux sociaux, évidemment, la vitesse de propagation des tics est bien plus grande. Et je voudrais revenir sur, du coup, non seulement, bon, c'est dommage de dire tout le temps la même chose, en effet, mais ce que j'ai remarqué, c'est que du coup, comme en même temps, ça fait partie de toutes les ça signe la mort des conjonctions de subordination. C'est-à-dire que plus ça va avec la simultanéité des informations qui nous arrivent en permanence, devoir traiter un afflux d'informations sur la toile, etc., moins on a le temps de construire différents niveaux logiques entre les arguments. Et donc, on n'aura plus le temps ni la faculté, peut-être, cognitive, de dire « j'ai fait ceci, donc par conséquent, cela arrive ». Mais on mime ça, quand même, il y a des sortes de restes, vous voyez, de résurgences, du coup, qui miment quand même la logique, mais qui en est totalement dépourvue, en réalité.
Donc, c'est vraiment un appauvrissement du langage. Il n'y a pas un effet de mode. Parce que ça peut exister aussi, la mode. Est-ce qu'il n'y a pas un auteur, une chanson, un film qui peut tout d'un coup installer l'opinion publique, dans la parole publique, des expressions, je pense aux visiteurs, un vieux film maintenant, mais il y avait le hockey de Jacouille, je crois, enfin, et tout d'un coup tout le monde disait hockey dans la rue.
Je crois qu'en mode vient d'une chanson d'un rappeur, non ? Je crois qu'en mode, le début d'En mode a été lancé par une chanson, mais j'ai honte, j'ai oublié le...
Mode, c'était le titre de la chanson du rappeur Rof, mais En mode, c'est aussi, dans le langage informatique, de redémarrer un ordinateur, un vieux Windows 85, en 95, c'était pas encore là, en mode sans échec. Être en mode, c'est aussi informatique. Donc,
une métaphore qui déjà a été utilisée sans doute par le rappeur.
Absolument.
Il utilise la métaphore informatique, ça prouve à quel point on est réduit à des machines.
Mais, en mode avion, avant de faire dodo.
Mais ça permet, enfin, c'est sûr que là, la chanson a dû lancer. Donc oui, il y a des origines, mais elles sont très difficiles à retrouver pour toutes ces tics, parce que c'est des flambées de propagation.
En même temps, mais là, je sais que c'est un type de langage. Ça peut être un marqueur d'avoir un tic ou d'utiliser une expression. Parce que, par son conséquent, demander à un jeune gamin de 16 ou 17 ans de dire par conséquent au lieu de du coup, je suis pas sûr qu'avec ses copains, ça marche. Donc, il a besoin de s'identifier par un vocabulaire commun aussi, non?
Ça marche complètement. Là, vous faites référence à un adolescent, par exemple, qui regarde Netflix, ou à un adulte, d'ailleurs, qui regarde Netflix, qui regarde des films américains. Il y a un tic que je cite dans le bouquin qui est vraiment symptomatique, c'est de mettre juste, c'est juste pas possible, c'est juste trop bien cette émission, c'est juste génial. Ben ça, c'est un pur anglicisme qu'on entend sur Netflix ou dans n'importe quel film américain qu'on regarde en VO, parce que it's just amazing, it's just so funny, etc. Ben c'est comme ça, c'est aussi la culture américaine qui importe tous ces tics de langage qui beaucoup sont des anglicismes d'ailleurs.
Alors dans votre livre, Quentin Périnel, vous êtes consacré au bureau et ailleurs, mais surtout au bureau. Ça a donc donné l'idée à Charlie Dupiau d'aller plonger son micro dans quelques entreprises, petites ou grandes, pour recueillir l'avis de ces gens qui y vivent et qui parlent forcément avec des tics.
Bonjour, je m'appelle Sophie, je travaille dans une start-up.
Donc je m'appelle Aude et je suis directrice dans une mairie. Je pense que j'ai énormément de tics de langage personnel. Il y en a qui sont assez répandus, je pense, comme du coup, que je dis beaucoup, mais que tout le monde dit énormément. J'utilise beaucoup d'adverbes, en fait, je me suis rendu compte. Je dis beaucoup potentiellement, ou je ponctue pas mal mes phrases comme ça, et c'est surtout un truc professionnel, je pense. Donc potentiellement, on se dit qu'on va partir dans cette direction, et on va, voilà, ce genre de choses.
Je m'appelle Isabelle, je suis directeur juridique dans une société, un groupe de sociétés très internationales. Dans un email, j'écris plein de mots en anglais lorsque j'écris à des petits camarades dans l'entreprise au siège en français. Je vais te répondre à zap quand je suis en retard. As soon as possible. Alors, conférence téléphonique. Alors là, on pourrait dire conférence téléphonique, mais on parle de conf call.
Call, c'est plus pratique que réunion téléphonique, quand même, il faut l'admettre. On pourrait dire appel, remarque. En fait, je pense que l'idée, c'est un peu de dire il faut gagner du temps. Et on gagne du temps dans la start-up, même sur le temps de parole et le temps de langage. Et en fait, on va utiliser à la fois des mots qu'on va raccourcir et on va utiliser beaucoup de mots en anglais, voire d'anglicisme. Donc ça va donner des mots comme raccourci, reco, par exemple, pour recommandation. T'as 2-3 reco, ça c'est très très courant. On va utiliser des mots, par exemple, comme héroïste. Est-ce que cette action-là, elle est héroïste? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est le ROI? Quel est le retour sur investissement de l'action? Et ça, on l'utilise à tout va.
Et le brainstorm, alors?
Oui, ça, on brainstorm beaucoup. Parce que en même temps, on conjugue. Je brainstorm, tu brainstorm, il brainstorm, nous brainstormons. Donc ça peut devenir assez ridicule même parfois. Et on se rend compte d'ailleurs que c'est contagieux. J'en ai entendu un récemment au placé dans l'entreprise qui émaillait ses discours, mais enfin c'était devenu une virgule de « je dirais ». Alors c'est même pas « je dirais » d'ailleurs, c'est « je dirais ». Le pire c'est plutôt les mots pompeux. Je m'étais amusée à faire le loto des entreprises. Ça consistait à faire une grille de loto avec les mots à la mode. Par exemple, « aux bornes de ». Oui, j'apprécie cet état de fait aux bornes de l'entreprise. C'est vrai que ça jette. Et aux bornes d'eux, on peut le dire une fois dans un discours, mais quand on le répète 4-5 fois, là, ça devient franchement ridicule. Et dans toutes les entreprises, il y a des périodes où tout le monde se gargarise de ces mots-là et les place à tout bout de champ. Donc le loto des entreprises, ça consistait à, au début d'une réunion, distribuer une grille avec ces mots-là à chaque participant à la réunion. Et au fur et à mesure, chacun coche la case contenant le mot qu'il entend. Et le premier qui a coché toutes les cases brandit sa grille en disant « Bingo, j'ai complété mon loto des entreprises ».
Quentin Périnel, vous retrouvez quelques-unes des expressions de votre livre, mais je trouve que vous êtes un peu dépassé. Hein. Il faudra au minimum un tome 2.
Oui.
Héroïste, j'avais jamais entendu.
Bah, il y a déjà une bonne vingtaine d'expressions que j'ai notées sur mon calepin. Vous en doutez bien, mais le reportage est très amusant parce que la dame qui parlait décrit effectivement le bingo réunion, en gros, où on essaie de deviner les buzzwords. Allez, je vais parler, je vais mal parler, moi aussi, deviner les mots, les tics de langage des autres. Et puis une fois qu'on a coché toute la grille, on a gagné et on s'aperçoit que le bingo réunion du coup est pas le même dans toutes les entreprises parce que chacun, comme l'explique très bien cette dame, chaque entreprise a ses propres tics, son propre jargon.
Alors c'est vrai que l'entreprise semble assez propice comme ça aux formules toutes faites, c'est le syndrome machine à café, ça va comme un lundi. Dans l'entreprise, est-ce que les tics ou les formules sont quand même toujours valorisantes ou valorisées? Parce que vous dites que de temps en temps, par exemple grosso merdo, vous utilisez cette formule sur grosso merdo, vous dites ça peut être rédhibitoire en réunion.
Bah en fait, grosso merdo, là pour le coup c'est vraiment personnel. Grosso merdo, moi j'aime vraiment pas parce que je trouve c'est moche. Voilà, c'est moche. Exactement, c'est très moche, c'est pas beau et ça c'est disons que c'est un tic plus rare. Mais quelqu'un qui dit grosso merdo, il le dit pas qu'une fois dans la journée généralement.
Et c'est une déformation de grosso modo qui se veut a priori une expression savante et latine. Alors les anglicismes sont-ils des tics?
Bah, les anglicismes sont des tics de surcroît en entreprise. Ça, c'est le modèle américain, le modèle start-up. Quand on utilise des anglicismes, on est évidemment, vous l'avez dit, plus important. On se sent plus important parce qu'on parle comme Mark Zuckerberg, quoi. Quelque part, c'est un modèle assez paradoxal. Et je reviens au modèle de l'école où on nous a appris à bien parler français. On nous a donné un champ lexical. On a des superbes mots en français. Et dès qu'on arrive dans le monde de l'entreprise, il y a un déconstructivisme absolument abyssal.
Julie Neveu, vous qui êtes aussi spécialiste de littérature anglaise, est-ce que les anglicismes peuvent être des tics, et y a-t-il des tics de langage dans toutes les langues ?
Ah oui, il y a des tics de langage dans toutes les langues, ça c'est sûr. Ensuite, est-ce que tous les anglicismes sont des tics ? Je suis pas tout à fait d'accord. Pour qu'un tic soit un tic, il faut qu'il soit vraiment surreprésenté dans la langue d'une personne ou d'une société, et aussi qu'il y ait cette pulsion inconsciente vers le tic. J'aimerais dire autre chose, mais je dis du coup en même temps, voilà, j'ai envie de dire que du coup, ça impacte la situation, vous voyez. Et par exemple, impacter, solutionner, questionner, moi c'est quelques anglicismes voilà dont je vois qu'ils se répandent vraiment partout, et même dans le milieu universitaire. Alors qu'on est plutôt réfractaire au tic, ils ont une certaine fonctionnalité. Pourquoi ils s'incrustent ? Parce qu'on n'a pas une façon aussi synthétique, et c'est vraiment le propre de l'anglais, de dire le rapport de cause à conséquence, donc impacter, avoir des conséquences sur, les Français sont bien aimés impacter parce qu'il y avait une transitivité directe. Donc ça marche, vous voyez, ça plaît. Et le tic, c'est aussi quelque chose qu'on attrape comme la mode et qui nous plaît. Moi, je me suis mise à dire en mode parce que j'ai trouvé ça drôle et je me suis mise à le dire.
Et ça y est, maintenant, vous le dites tout le temps.
Pas tout le temps, mais
de temps en temps. Mais est-ce que ce sont les mêmes tics ? Par exemple, Quentin, repère, ça fait sens, comme un tic français, qui est la traduction en fait de to make sense. Mais est-ce que to make sense est un tic en anglais ?
Non, pas du tout. Pas du tout, non, parce que le tic, c'est bien celui qui se perd, c'est l'expression qui se vide de son sens. C'est donc un affaiblissement sémantique. Donc à partir du moment où vous voulez vraiment dire ce que vous dites, make sense, c'est vraiment faire sens, interpréter une situation, donc ça a son sens. Alors que, vous voyez, justement, faire sens, répéter, plus on répète quelque chose, moins ça veut dire quelque chose. Et ce qui est fascinant, c'est que tous ces mots d'introduction que vous avez cités, j'ai envie de dire, sont des éléments de langage, oui, des béquilles qui affaiblissent le discours. Mais pourquoi elles affaiblissent ? C'est que la phrase est conçue pour se suffire à elle-même. C'est-à-dire que je mets sujet, verbe, complément dans l'ordre en français et j'ai tout dit. Si je dis le ciel est gris, j'ai fait une affirmation. C'est pour ça qu'on met sujet, verbe, complément dans cet ordre pour faire une affirmation. Si je dis j'ai envie de dire vraiment le ciel est gris, c'est moins affirmatif. Oui.
En tout cas, personne n'est à l'abri des tics de langage. Écoutez, c'était en avril 2017, dans l'émission politique de France 2. Les journalistes recevaient un candidat à l'élection présidentielle du nom d'Emmanuel Macron.
Pardon de vous le dire, mais... Non, pardon de vous le dire. Mais tous les poids lourds sont du passé, pardon de vous le dire. Hein.
Ah bon mais... Vous êtes et pour et contre.
Non, pardon de vous le dire, je suis pour une transition. Excusez-moi de vous le dire, on a le droit de ne pas être enfermé dans une boîte. Bon. Moi, pardon de vous le dire, on leur donne pas des vraies formations aujourd'hui. Pardon de vous le dire.
C'est vous qui parlez au système médiatique, Emmanuel Macron.
Non, pardon de vous le dire, moi je parle aux Français. Faut ouvrir les yeux, pardon de vous le dire. Pardon de vous le dire. Mais attendez, excusez-moi de vous dire, ils n'ont pas été là. Pardon de vous le dire.
Pardon de vous le dire, 16 fois en une heure et demie. Julie Neveu, est-ce que c'est un tic ou un toc ?
Là, c'est un gros tic et peut-être un toc aussi. Peut-être la rhétorique de l'enfant de cœur habite-t-elle profondément Emmanuel Macron, qui n'a plus d'objet de pardon. Vous savez, pardonner quelque chose, mais quoi ? Lui, il annonce, il le dit au début, normalement c'est à la fin, qu'on essaie de se faire pardonner. Donc il y a un petit problème qui sert sa rhétorique.
Mais en même temps, ça prouve que n'importe qui est touché par l'éthique de langage.
Ah oui, absolument, en même temps. D'ailleurs, c'est un des tics que vous signalez. Alors comment se débarrasser des tics quand c'est devenu un programme politique ?
Alors ça c'est compliqué, surtout dans le cas d'Emmanuel Macron. En même temps, effectivement, ça fait partie de sa marque de fabrique, quasiment. Parce que là, votre petit reportage montage, il reflète. On peut pas faire semblant de l'ignorer. Donc ensuite, est-ce que il va être traîné? Entraîné pour essayer de bannir ses tics, ou alors est-ce qu'il va faire avec et assumer? Je pense que c'est ce qu'il avait fait à l'époque pour en même temps. Il avait dit, moi je dis en même temps, j'assume, etc. Il y a plusieurs choses possibles, mais dans le cas de Macron et dans le cas en fait de toutes les personnalités connues, à un moment donné, l'éthique de langage, ça peut devenir une marque de fabrique, ça peut faire partie intégrante de la personnalité. Mmh.
Est-ce que vous constatez une multiplication comme ça des formules toutes faites en ce début de 21e siècle, avec le numérique, les réseaux sociaux, les chaînes tout info, la répétition est quand même devenue un mode de pensée, où toutes les périodes finalement ont eu leur lot de tics?
Sans aucun doute, les réseaux sociaux, les nouveaux modes de communication et d'information rendent la propagation des tics plus rapide et plus visible. Alors oui, il y avait déjà des tics de langage avant. Certains reviennent, certains mots trop, c'était déjà la mode au XVIIe siècle. Certains tics reviennent. Certains sont mis de côté parce qu'on les a trop stigmatisés, on s'est trop moqué, donc on n'ose plus les dire. Ou alors certains ne sont plus des tics parce qu'ils sont complètement lexicalisés, c'est-à-dire qu'on les utilise comme d'autres mots.
Par exemple.
Eh bien, trop aujourd'hui, c'est trop bête. Ça devient synonyme de très. Donc je pense que bientôt dans le dictionnaire, ce sera écrit trop égale très, un synonyme.
Et ce que je trouve amusant, moi, c'est l'éthique du passé. Moi, par exemple, je dis souvent « in fine ». Et pourtant, c'est très vieux comme
mais ça fait chic, in fine, ça fait un peu latin.
Je sais pas si ça fait chic, mais j'ai toujours dit que j'ai été contaminé, je ne sais pas par qui, mais que j'aime beaucoup ça. Donc il peut y avoir des tics d'une autre époque, transposés, tout peut revenir, en fait. Les mots s'évaporent, reviennent un peu au gré.
Oui, il faut pas tout rejeter, quoi.
Ah non.
Au jour d'aujourd'hui, par exemple.
Ah non, ça, on n'aime pas du tout, ça, par contre.
Au jour d'aujourd'hui, je trouve ça fascinant, parce que regardez, en fait, oui, c'était hoc d'hier, déjà. Donc, oui, au 17e aussi, La Fontaine, il dit, ce proverbe ne court pas d'oui. Donc, aujourd'hui, déjà dit dans hoc d'hier, ok? Après, au jour d'aujourd'hui, et après, donc oui, donc aujourd'hui, il y avait déjà le jour du jour d'aujourd'hui, donc ça fait trois fois. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait partie de tous ces mots qu'on appelle déictiques en linguistique, qui essaient d'ancrer la personne qui parle dans sa situation spatio-temporelle. Donc ceci, cela, donc en fait, vous dites ce jour-ci, avec au jour d'aujourd'hui, et ça a l'air d'être une propension naturelle de l'être humain de s'ancrer pour dire, moi, je fais partie de ce moment-là.
Alors, l'espace spatio-temporel du mercredi dans De Vive Voix, c'est la chronique La Puce à l'oreille.
La Puce à l'oreille.
Bonjour Lucie, La Puce à l'oreille, tous les mercredis, c'est un tic ou une douce habitude?
Oui, vous dites ça, vous dites rien, mon cher Pascal. Allons, enfin, vous le savez bien, entre puce et une tique, eh ben, il n'y a pas photo tout de même. Et la puce, votre douce habitude du mercredi, donc, c'est se montrer reconnaissante. C'est vrai qu'elle vous doit une fière chandelle, mon
cher Pascal. C'est l'expression du jour.
Et justement, vous m'avez vu venir devoir une fière chandelle à quelqu'un. Alors, dans quelles circonstances offre-t-on une chandelle? Et qu'est-ce que la fierté à avoir là-dedans? Eh bien, Jean Pruvot nous dit tout dans une minute. Mais avant, on écoute les propositions de la classe de Muriel Henny de l'école Forest à Paris, des petits à l'esprit éclairé.
Quand, par exemple, quelqu'un t'a sauvé la vie, tu lui dois une fière chandelle. Tu l'adores parce que t'as sauvé la vie.
Parce qu'une chandelle, c'est pour mettre les bougies et, par exemple, tu m'as sauvé la vie, du coup, je vais te le remercier un jour dans ma vie parce que ça a plusieurs branches. Ils mettent, du coup, il y a une branche, après je le re-aide, il y a une autre branche. T'es très fatigué et quelqu'un veut bien te remplacer au travail, c'est un assistant, tu lui dois une fière chandelle. Ça veut dire que tu le remercies. Comme tu m'as sauvé ou tu m'as aidé, je vais te remercier des chandelles parce que avant, maintenant, mais les chandelles, c'était pour les riches.
Et c'était il y a très longtemps, quand on n'avait pas d'électricité, on n'avait que des bougies pour s'éclairer. Et quand c'est comme si quelqu'un te rendait service et tu lui donnes une chandelle pour qu'il y ait plus de lumière dans sa maison.
La puce à l'oreille.
Alors Jean, devoir une fière chandelle difficile. La chandelle, ils ont trouvé plein d'explications possibles. Avoir plusieurs branches, c'était quand même joli.
Oui, parce qu'il y a l'idée du chandelier à plusieurs branches, donc ça c'est une bonne idée. Alors ça vient du latin candela, qui voulait dire la lumière. Donc effectivement, la chandelle procure la lumière. Alors aujourd'hui,
qu'est-ce que ça veut dire devoir une fière chandelle d'abord?
Avoir, c'est être redevable à quelqu'un de quelque chose et lui être redevable grandement. D'où le mot, l'adjectif, une fière chandelle. Alors évidemment, ça suppose qu'on explique aussi fière.
fier, oui.
Au début, c'est un mot latin ferus qui veut dire sauvage, redoutable, et ça avait plutôt un sens négatif. On parlait des animaux fiers, c'était les animaux sauvages, féroces. Et puis ça a été, qui ont à une attitude hautaine, on a dit fier comme un coq, comme un paon. Puis ça a eu une extension positive, et c'est devenu grand, fort, remarquable. Quand on dit quelqu'un, il m'a rendu un fier service, vraiment un grand service. Alors la fière chandelle, c'est dans cette idée-là.
Donc c'est la grande chandelle. Mais donc quelle est cette chandelle et pourquoi est-ce qu'on doit une chandelle à quelqu'un ?
Alors, quand on va à l'église, dans la religion catholique, mais il y a aussi d'autres religions, on pose une chandelle pour une reconnaissance d'un vœu qu'on a fait et qui a été exaucé. Donc si vous voulez mettre une chandelle, c'est dire merci d'une certaine façon.
On disait même de voir une belle chandelle à Dieu.
Oui, c'est ça.
Ou même une belle chandelle à la Vierge.
C'est ça. Alors que l'idée aussi de la chandelle, qui est quelque chose qui est rigide, de droit, qui va vers le ciel, comme la flamme et la fumée qui s'en échappe.
Mais la chandelle, c'est aussi un bien qui coûte cher, comme le disait un des enfants, et c'est une notion qu'on retrouve dans les expressions « le jeu n'en vaut pas la chandelle », par exemple.
Oui, alors après, il y a eu la bougie aussi, qui était aussi très chère, et qui venait d'une ville arabe qui s'appelait Bougie. Et on a longtemps eu une sorte de vénération pour le seul moyen de s'éclairer, donc c'était quelque chose de très important. Les expressions n'ont pas manqué, bien sûr.
Il y a faire des économies de bout de chandelle,
oui,
pour dire qu'on fait des économies inutiles, et sinon on brûle la chandelle par les deux bouts pour dire qu'on gaspille,
oui,
inutilement. Il y a aussi une autre expression comme voir 36 chandelles ou tenir la chandelle quand on est le témoin d'échanges amoureux.
Sans participer, on est là, on regarde, on a un peu l'impression d'être comme une chandelle posée sur la table de nuit.
Alors elle date de quand cette expression de voir une fière chandelle?
Alors elle date du Moyen-Âge, donc elle est très lointaine. Elle a finalement traversé les siècles, parce que c'est quand même une expression qui aujourd'hui demande à être expliquée. Il y a beaucoup d'enfants qui peut-être ne savent plus trop ce qu'est une chandelle, encore que tous ceux qu'on a entendus le savaient. Alors il y a d'autres expressions, mais c'est resté quand même l'expression forte. Je dois une fière chandelle à quelqu'un. C'est vraiment
très utilisé.
Et donc très
vivante.
Très vivante.
Et du coup, il n'y a pas vraiment de synonyme.
On peut dire être très reconnaissant,
oui,
à quelqu'un. On peut dire être redevable à quelqu'un. On peut renvoyer l'ascenseur. C'est pas tout à fait la même chose.
Renvoyer l'ascenseur, oui, c'est vrai.
C'est-à-dire, quelqu'un vous a aidé, vous allez aussi l'aider. Mais ça va un peu plus loin que de voir une fière chandelle. Et puis alors, il y a ces formules avec toute ma gratitude. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'expression aussi joliment imagée.
Renvoyer l'ascenseur, ça me fait penser à l'équivalent en Espagne. Aujourd'hui pour moi, demain pour toi.
Ah, c'est très joli.
Merci bien, mon cher Jean. Cette fois-ci encore, je vous dois une fière chandelle d'être venu nous éclairer de vos lumières dans la puce.
Ah,
je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent se procurer votre dernier ouvrage paru aux éditions de la librairie Vuibert et qui s'intitule « Les secrets des mots ».
Merci, Lucie.
Merci, Lucie. Merci, Jean. Et on retrouve bien sûr la chronique sur RFI Savoir.
Sur RFI Savoir, savoir avec un S.
Et bon courage, expression que vous détestez quand un péril...
Je crois que je ne suis pas le seul.
Non, vous n'êtes pas le seul.
Ça plombe un peu le moral quand on dit bon courage à quelqu'un. Merci beaucoup, Quentin Périnel. Votre livre « Les 100 expressions à éviter au bureau et ailleurs » sont publiés par les éditions du Figaro. Julie Neveu, merci à vous. On peut vous retrouver dans un tout autre domaine comme auteur de théâtre avec « Qui vole un œuf » au théâtre du Funambule. Et très sérieusement aux éditions de la Rue d'Ulm avec un ouvrage très savant sur le poète anglais du XVIe siècle, John Donne, livre intitulé « Le sentiment de la langue ». J'aimerais bien qu'on en reparle à l'occasion.
Avec plaisir.
Mille excuses aux auditeurs si par malheur vous avez attrapé quelques tics de langage en nous écoutant, car des fois ça arrive comme ça. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Véronique Durand, Guillaume Ploquin à la réalisation. À demain.